Bonjour.
Bonjour.
Un mot d'abord sur l'époque que nous traversons. Vous dites que nous vivons à une époque où tout se radicalise. Qu'observez-vous, Didier Van Coelhardt ?
C'est-à-dire la bêtise, la violence, le sectarisme, même les discours humanitaires se radicalisent. D'où l'urgence, à mon sens, de radicaliser la bienveillance. C'est-à-dire de l'employer sans peur, sans honte et sans modération. Parce que je pense que c'est le seul système d'antidote face à l'agressivité sommaire qui semble mener le monde.
Comment la définissez-vous, la bienveillance, Didier Van Coelhardt ?
Étymologiquement, c'est juste vouloir du bien.
À l'autre.
Vouloir du bien à l'autre et à soi aussi, c'est-à-dire savoir ce qui nous fait du bien. Et franchement, le rapport de force, les rapports de jalousie, l'aigreur, c'est pas des choses qui vous rendent heureux, c'est pas des choses qui vont générer une activité hormonale intéressante.
Donc,
pour se sentir bien.
Donc, être bienveillant, c'est aussi, et peut-être d'abord, penser à soi.
Non, c'est se mettre dans les meilleures conditions possibles pour être aussi efficace en direction des autres qu'en direction de soi-même. C'est pas du nombrilisme en vase clos, mais la bienveillance, c'est aussi un plaisir solitaire. Il faut pas qu'elle soit basée sur l'attente du retour sur investissement. Même si vous suscitez l'indifférence ou l'ingratitude quand vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un, ça vous aura fait du bien à vous et donc il faut continuer.
Est-ce que la bienveillance, ça s'apprend ?
Ça s'apprend par l'exemple. Enfin, là, je parle de mon itinéraire. On ne m'a pas inculqué des préceptes de bienveillance. J'ai eu l'exemple, notamment par mon père, de voir combien la bienveillance peut vous aider à surmonter la douleur physique, la douleur morale, l'injustice et tout. Et aussi, ma bienveillance, elle a été déclenchée par la maltraitance que j'ai subie à l'école par des bandes d'enfants ou par un professeur tortionnaire. Et la manière dont j'ai répondu à ça, le refus de la délation, par exemple, alors que celui qui m'avait caillassé, m'avait blessé, c'était celui que je pensais être mon meilleur copain, mais si je le dénonçais, j'aurais cassé le mouvement de repentir, de prise de conscience de ce qu'il avait fait. Il avait été entraîné par l'effet de meute d'une bande comme ça, et là, tout à coup, il allait changer, il allait redevenir mon copain, mais si je déclenchais en le dénonçant le système de sanctions, tout ça, j'allais casser cet élan. En fait, la bienveillance, c'est aussi...
Une stratégie ?
Oui. Oui, mais la stratégie, c'est pas forcément un sens négatif. C'est un pari sur l'autre. Et en même temps, une stratégie par rapport à nous-mêmes, d'instinct de défense et de survie.
La bienveillance n'a rien d'une mièvrerie, écrivez-vous. C'est une arme de guerre. C'est même, d'ailleurs, une arme qui peut mettre fin à la guerre. Parlez-nous, Didier Van Coelhardt, des casques roses de l'ONU.
Alors, à la fin des années 80, au moment de la guerre entre Israël et le Liban, les universitaires américains présentent à l'ONU un projet complètement fou qui s'appelle « Projet international de paix au Moyen-Orient ». L'objectif, c'est d'envoyer des rêveurs d'élite, c'est-à-dire des gens entraînés à la concentration mentale maximum, de les envoyer sur les champs de bataille. Et le but n'est pas de prier pour que la paix revienne, mais de se réjouir que la paix soit déjà revenue et que tout le monde vive en bonne intelligence et en bienveillance partagée.
Donc c'est mentir et dire que la guerre est déjà terminée.
À mentir, si par rapport au contexte actuel, mais vous projetez quelque chose que vous allez chercher dans le futur et vous l'actualisez. Et là, ça marche. Et les observateurs de l'ONU constatent que partout où ces commandos de rêveurs d'élite arrivent pour se réjouir que la paix soit revenue alors que ça canarde autour d'eux, les gens arrêtent de tirer. On a demandé aux belligérants pourquoi vous avez arrêté de tirer. Les mecs répondent, on ne sait pas. D'un coup, on n'a plus la motivation, on a pensé à autre chose, on s'est rappelé que c'était mieux à la guerre. C'est-à-dire qu'ils ont été touchés par contagion, par la force mentale de ces gens qui ont actualisé une paix à un moment où on était en pleine guerre. Et quand on interroge les fameux casques roses, c'est Jean-François Revel, journaliste et philosophe, qui les avait baptisés ainsi dans l'un des rares articles consacrés à ce phénomène extraordinaire. Quand on interrogeait ces casques roses, il disait « Oui, par moment, la lucidité est notre ennemi, parce que si on se rend compte qu'on est au milieu de la guerre, qu'on va se prendre une balle, donc évidemment, ça entame notre force mentale, la bulle d'énergie qu'on essaie d'imposer. Et si les armes s'arrêtent, on se dit ça y est, on a gagné, le lâcher prise qu'on va faire est dangereux parce que partout où ils arrêtaient de ressentir la paix, la guerre reprenait ses droits. Donc c'est un énorme travail d'aveuglement aussi. Pour générer de la lumière, ils sont obligés de pratiquer l'aveuglement par rapport au contexte présent que leur force mentale est chargée de modifier.
Mais à votre avis, pourquoi est-ce que cette idée qui semble fonctionner, cette idée de casque rose, n'a pas été multiplié par la suite?
Bah parce que malheureusement, qui a intérêt dans le monde où nous vivons à ce que ce soit la paix qui gagne? La paix ne rapporte pas d'argent, la guerre et la destruction permet des contrats de reconstruction qui sont déjà signés souvent avant que les puissances militaires ne s'engagent dans des conflits. C'est pas être cynique de dire ça, c'est juste être au courant de ce qui régit notre système économique, militaire, aujourd'hui. Cette expérience, si, on l'a reproduite, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on a envoyé l'équivalent des chauffeurs de salle dans les studios de télé à des gens pour attiser les haines, les dissensions, de manière à provoquer des conflits dans un intérêt militaro-industriel que nous connaissons aujourd'hui avec les forces en présence qui semblent mener le monde. Mais ça a été modélisé, les résultats de ces casques roses, ça a été analysé, commenté, modélisé dans les plus importantes revues académiques internationales, le journal de résolution des conflits et l'université de Princeton, a transformé ça en statistiques et a établi combien il faut de personnes capables de ressentir la paix avec force pour qu'une guerre s'arrête. On a ce matériau extraordinaire.
Il faudrait environ 7000 personnes pensent positivement à la paix. Pour que la paix
à l'échelon de la planète. Alors c'est les chiffres de 1997. Hein, il y a eu un peu plus aujourd'hui, donc il faut l'actualiser ce chiffre. En tout cas, c'est d'après les statisticiens de l'université de Princeton, il faut que la racine carrée d'1% de la population concernée par un conflit ressente la paix pour que la guerre s'arrête. Donc quand des scientifiques sont arrivés à de telles conclusions, il est totalement coupable et simplement con de ne pas refaire cette expérience. Et là, le fait d'en reparler dans le livre, l'autre jour, je fais une émission sur TV5 Monde, et les recherchistes ont ressorti les archives, parce que on a l'impression que j'invente quand je raconte ça. Mais heureusement, toute la documentation est disponible, et vous allez sur Internet, vous allez dans les archives de Princeton, dans les archives de l'ONU, et vous avez la preuve de tout ça sous les yeux.
Deux questions encore rapidement pour terminer, Didier Van Coelhardt. Comment est-ce qu'un lecteur peut reconnaître si oui ou non un écrivain est bienveillant?
Ah bah le bien que lui font les livres de cet auteur, ou pas.
Vous considérez-vous comme un écrivain bienveillant?
Je pense, enfin c'est ce que disent les gens qui me lisent, mais c'est pas une affectation, quoi. C'est pas une posture, c'est pas du recrutement de clientèle non plus. C'est ma nature profonde, c'est la source de mon énergie, de ma joie, de ma jubilation et de mes plaisirs solitaires aussi, parce que la bienveillance est un plaisir solitaire aussi.
Si on veut être bienveillant ce soir.